Radio Albit 16 vous propose des échos de la foire Biocibel 2021 à Groyer, organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. La foire de l'agriculture bio et des alternatives comporte des temps de discussion autour de sujets de société, notamment l'énergie. Le 24 mai 2021, au parc de la Bousquetariée à Groyer, le Chapiteau Forum accueillait la projection du film « Barrage eau sous haute tension » de Nicolas Hubelmann via Régie Sud, une structure polyvalente autour des métiers de l'image et du son. Jean-Damien Navarro de la CGT EDF Hydro était présent pour répondre aux questions du public après le film. Et on vous propose d'écouter un résumé sonore du film en 15 minutes, puis d'écouter les échanges avec Jean-Damien Navarro. Bonne écoute.
Qui peut se passer d'électricité dans le monde d'aujourd'hui ? Qui peut vivre, travailler et se nourrir sans brancher une prise ou appuyer sur un bouton ? À chaque seconde, des milliards d'électrons circulent entre nous. Ils transportent nos voix, nos corps, nos données. Ils nous réchauffent, nous protègent et nous soignent. Mais alors que l'électricité est devenue une énergie vitale, très peu savent vraiment d'où vient ce courant et pourquoi un jour, il se pourrait que la lumière s'éteigne. Plus de 400 grands barrages soutiennent la production électrique française. Le barrage hydroélectrique demeure le seul moyen de production à pouvoir fournir une énorme quantité d'énergie sur ordre du dispatching de RTE. Il leur suffit d'ouvrir les vannes pour produire immédiatement les millions de mégawatts qui vont équilibrer le réseau et éviter les blackouts. C'est en Isère que se trouve la plus puissante centrale hydroélectrique de France. Sa particularité est de fonctionner avec deux lacs de retenue situés l'un en dessous de l'autre et fonctionnant ensemble.
C'est une très puissante centrale hydroélectrique puisque sa puissance c'est 1800 MW, l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. La France en a 58. Hein. Et elle a l'avantage en plus d'être une station de pompage. C'est-à-dire que l'eau qui est retenue dans un barrage à Grand-Maison, 1000 mètres au-dessus d'ici, elle peut à la fois être turbinée vers le bas. Et puis, comme il faut toujours que la consommation et la production soient au même niveau, quand les gens consomment moins et qu'il y a de la surproduction en France, on peut reprendre l'eau du lac d'en bas et la repomper vers le haut.
Pourquoi deux retenues à des altitudes différentes? Lorsque la demande d'électricité est importante, les eaux de la retenue de Grand-Maison descendent vers les deux usines où, turbinées, elles livrent de l'électricité de grande valeur au réseau français. Par contre, en période de faible consommation, lorsque des quantités importantes de courant sont disponibles, les eaux de la cuvette du Vernet sont pompées par les groupes reversibles de l'usine souterraine pour être remontées dans la retenue de Grand-Maison qui se remplit à nouveau.
Si on voulait remplacer une usine de ce style-là par une batterie chimique, que Tesla pourrait nous fabriquer peut-être, hein, à mon avis, de cette puissance-là, ce n'est pas possible. Ça prendrait plusieurs hectares d'empreinte au sol et plusieurs dizaines d'étages de haut. De produits chimiques rares, merdiques et pas très écologiques. Donc aujourd'hui, le bilan qu'il faut faire du stockage de l'électricité dans le monde, c'est que 99% de l'électricité est stockée sous forme d'eau dans des grands barrages comme celui-ci.
La plupart des barrages sont depuis leur construction gérés par EDF, à qui l'État a confié les concessions. Le statut public de l'entreprise la protégeait de la concurrence. Mais en 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin transforme EDF en société anonyme. La mise en concurrence des concessions devient alors obligatoire. Les grandes multinationales de l'énergie se portent candidates à l'exploitation des barrages. Devant la complexité du dossier, les gouvernements successifs laissent EDF aux commandes et se contentent de promesses à l'Union européenne. Mais les autorités de la concurrence de l'Union s'en mêlent. Et en 2015, elles somment la France d'ouvrir les concessions à des opérateurs privés.
La Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France, au titre donc du traité. Dans ce contexte, un changement est intervenu dans les dernières semaines, puisque les échanges récents avec la Commission européenne montrent que nous devrions arriver à un compromis et au retrait de la procédure d'infraction. Donc nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans une phase de discussion pour trouver le compromis.
Élu président, Emmanuel Macron assure vouloir négocier avec Bruxelles, mais il propose en même temps la mise en concurrence des concessions de 150 barrages. Le compromis s'avère une trahison et au printemps 2019, les syndicats d'EDF occupent les barrages.
La seule chose que je retiens, c'est on respectera le droit européen. Voilà. À partir du moment où il a dit ça, on est dans le en même temps de Macron. C'est-à-dire, c'est en même temps, je te caresse de la main gauche, mais de la main droite, je vais t'en foutre une. Voilà.
À l'initiative du député communiste Hubert Vulfranc, 107 députés, des insoumis jusqu'aux marcheurs, soutiennent la résolution qui s'oppose à la mise en concurrence des barrages.
Conformément aux orientations idéologiques libérales du chef de l'État, le gouvernement a fait lui-même de la privatisation de la gestion des barrages hydroélectriques l'une de ses priorités et ouvert une négociation à ce sujet avec Bruxelles portant sur l'ouverture complète à la concurrence des concessions qui viennent progressivement à échéance. Ces négociations, discrètes, font craindre le pire.
C'est vraiment le poumon du système électrique et en plus c'est la partie la plus complexe à gérer. Mais vraiment de très loin. Il y a des équipes entières qui travaillent uniquement sur l'hydraulique. Alors pourquoi c'est plus complexe que le reste? Justement parce que ça va suivre en temps réel la consommation, parce que c'est des stocks d'eau en fait qui sont à gérer sur une année dans un univers qui est très incertain puisque la consommation comme la production dépendent par exemple beaucoup des conditions météorologiques. Ça dépend de la température qui fait beaucoup varier la consommation. Ça dépend des apports en eau, ça dépend du vent, ça dépend du soleil. Donc on est en univers très incertain dans lequel il faut garantir cet équilibre. Et puis les barrages hydrauliques sont tous très spécifiques. Ils dépendent des vallées, de la topologie des vallées dans lesquelles ils sont. Donc c'est difficile à modéliser. En plus, ils sont liés entre eux, c'est-à-dire que les barrages le long de la vallée dépendent de ceux qui sont en amont et de ceux qui sont en aval. Et puis ils doivent répondre à des besoins autres que l'électricité. Ils ont des contraintes de fourniture d'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, pour la pêche, pour la navigation fluviale, etc. Donc c'est une multitude de contraintes qu'il faut arriver à gérer.
Le problème de l'hydraulique, c'est qu'il ne sert pas deux fois de suite. Une fois qu'on a vidé le barrage, il est vide jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, jusqu'à la fonte des neiges, ça dépend quand. Donc c'est une gestion qui est très délicate et qui a évidemment un intérêt majeur à être gérée d'une façon globale, d'une façon optimisée entre tous les barrages.
C'est une optimisation qui bénéficie aux consommateurs parce que c'est comme ça qu'on a les prix les plus bas. L'éclatement des opérateurs fait que, à ce moment-là, chaque opérateur va essayer de rentabiliser au mieux son ouvrage ou sa vallée. Mais pas forcément dans l'intérêt général, mais dans son intérêt à lui. Il a mis de l'argent dans une concession, il va essayer d'en tirer le maximum de profit.
Mais un risque bien supérieur plane sur l'avenir de ces infrastructures. Le réchauffement climatique.
Une étude produite par le ministère de l'écologie lui-même, il y a quelques années, une étude Explore, annonçait qu'à l'horizon de quelques décennies, les débits des rivières en saison sèche, en été, allait perdre 40 à 60% suivant les régions. C'est un ordre de grandeur, ça dépend des rivières, ça dépend comment sont les sols, mais c'est un ordre de grandeur. Ce qui signifie que bah, là où on avait déjà du mal à passer les étés avec quelques restrictions d'eau, ça va être de plus en plus difficile.
Ce qu'on peut dire sur la tragédie climatique dans les endroits français où il y a les barrages, donc en gros toute la moitié sud-est en dessous d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, c'est qu'on va prendre progressivement dans 20 ans, dans 30 ans, le climat de l'Espagne. Un climat beaucoup plus aride, beaucoup plus sec l'été, et on a déjà modélisé, c'est pas des extrémistes qui ont modélisé ça, c'est le ministère d'écologie, dans une étude qui s'appelle Explore, et les débits d'été, ils vont être divisés par deux. Deux fois moins d'eau à se partager entre eux. On peut imaginer de plus en plus d'usages, puisque la température est augmentant, les gens auront peut-être besoin de plus d'eau pour se refroidir, pour arroser leur jardin, et je ne parle pas des agriculteurs et des centrales nucléaires qui resteront.
Quelle sera la valeur de l'eau en 2050 ? Qui peut en prévoir les usages ?
Et c'est nécessaire qu'il y ait cette relation entre le développement économique d'un territoire, son développement touristique, ce lien avec, avec l'élu local. Et bien ça, c'est un service public. Alors bien sûr, on nous dit, privé, il n'y a pas de souci, on fera pareil. Bien sûr, on fera pareil, sauf que pour garder un lac plein, ça veut dire qu'on produit un peu moins d'électricité, puisqu'on va faire passer un peu moins d'eau. Donc il y a un coût. Donc, bien sûr qu'il y aura un coût qui sera défalqué sur les collectivités. Donc, ces inquiétudes-là, elles sont très fortes.
Pourquoi la Commission européenne tient-elle absolument à l'ouverture à la concurrence des concessions qui relèvent de services publics comme celui de l'électricité ?
Alors, la libéralisation du secteur de l'électricité, elle s'inscrit dans un mouvement très vaste de réformes dans les années 90, qui est initié par la Commission européenne. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut ouvrir à la concurrence tout ce qu'on appelle les industries de réseau, c'est-à-dire l'aérien, les télécoms, les réseaux ferrés et l'énergie, électricité et gaz. Et donc l'idée, c'est de dire qu'un monopole public est inefficace et qu'il faut ouvrir à la concurrence pour que ça puisse bénéficier aux consommateurs en entraînant notamment une baisse des prix.
Le modèle intégré d'EDF à la fois producteur et fournisseur d'électricité est devenu un millefeuille d'intermédiaires qui rend l'équilibre du réseau de plus en plus difficile à gérer. Avec l'ouverture à la concurrence, n'importe quel fournisseur européen peut désormais acheter de l'électricité sur les marchés de gros et la revendre à des particuliers ou des entreprises d'un autre pays. Notre courant passe maintenant par la bourse.
Donc on crée des monstres boursiers, et puis voilà, le jour où on a un crack, on nous explique que c'est un accident, comme voilà, le scandale Enron en 2001, où tout s'est effondré aux États-Unis à cause de la spéculation boursière. On nous explique que c'est un accident, et puis on recommence.
La seule manière de maîtriser ce risque, un peu mieux, c'est de produire soi-même l'électricité qu'on vend. C'est ce qu'on appelle le modèle d'intégration verticale en production.
Autrement dit, si le fournisseur est aussi producteur d'électricité, il maîtrise ses coûts de production. C'est le modèle d'une chaîne intégrée avec un seul opérateur que la France avait mis en place avec EDF. Un modèle à l'abri des cours de la bourse. Transformée malgré elle en monstre financier, EDF, Électricité de France, est loin de ses missions fondatrices. Née dans un monde qui a connu l'exploitation ouvrière par les cartels de l'énergie, l'entreprise publique a été pensée pour mettre l'énergie au service des Français. C'est juste après la libération que ce projet se concrétise. Le Conseil national de la Résistance a préparé un plan pour nationaliser le secteur de l'énergie et reconstruire la France. C'est un résistant, Marcel Paul, rescapé de Buchenwald, qui est nommé ministre de la production industrielle. Marcel Paul va mettre en œuvre le programme du Conseil national de la Résistance et poser les fondations d'EDF.
Et ce programme a tout un volet économique, pas seulement, hein, il parle de la presse, il parle de tas de choses avec une grande ambition. Et sur le terrain économique, il dit plus jamais ça. Les intérêts particuliers doivent être subordonnés à l'intérêt général. Et c'est quelque chose de très important parce que cette idée-là, elle va orienter la politique économique française pendant quelques années.
Dès son arrivée, Marcel Paul s'attelle à la tâche. Et après d'interminables négociations, il crée EDF le 8 avril 1946.
Et donc, on a créé le service public pour avoir, pour pouvoir distribuer l'énergie partout sur le territoire, pour la distribuer au même prix, c'est-à-dire qu'on soit au fin fond des Deux-Sèvres ou qu'on soit dans le 16e arrondissement de Paris, on paye le kilowattheure le même prix. Ça, c'est un choix politique. Dès les débats parlementaires, quand on a débattu sur la loi qui allait créer EDF, on avait déjà évidemment une droite des conservateurs qui essayait d'empêcher cette nationalisation ou qui essayait de la faire à minima.
Alors les patrons du thermique sont fondamentalement hostiles à la nationalisation. Les patrons de l'hydroélectricité, par contre, sont davantage favorables à la nationalisation. Et d'ailleurs, c'est un des patrons de l'hydroélectricité que Marcel Paul va mettre à la tête d'EDF. Pierre Simon.
Pierre Simon, ingénieur et résistant lui aussi, devient le premier président d'EDF. Avec Marcel Paul, il rédige les nouveaux statuts du personnel, le fameux statut des agents d'EDF.
Toutes les compagnies d'électricité et de gaz avaient un statut du personnel qui avait été négocié avec les syndicats. Mais c'était complètement disparate. Dans les sociétés où les travailleurs s'étaient battus, ils avaient un très bon statut. Puis dans les petites sociétés où il n'y avait pas de syndicat, c'était affreux. Ils avaient rien du tout. Ils n'avaient ni congé, ni rien du tout. Et donc, l'idée de Marcel Paul, c'était de faire d'EDF une sorte d'exemple. Non pas pour que les salariés se sentent des privilégiés, mais plutôt pour que les autres salariés des autres entreprises, finalement, réclament le même statut.
Chers collègues, je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie du pays. Que votre dignité, comme l'intérêt national, vous font un devoir impérieux de continuer à défendre, sans jamais défaillir, le service public propriété de la nation contre les représentants du grand capital industriel et bancaire, dont le seul objectif est d'asservir encore plus le pays à leurs insatiables besoins de domination et de profit. De continuer, avec le même courage, à défendre votre légitime statut national, vos retraites, vos œuvres sociales. Anciens et nouveaux, actifs et inactifs, ces lignes s'adressent à chacune et à chacun de vous, avec une profonde conviction qu'ensemble, nous avons bien mérité et méritons toujours de cette patrie dont nous voudrions voir filles, fils et parents heureux.
Tout parallèle avec ce qui s'est passé dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale est pas complètement fortuit. C'est-à-dire qu'en gros, on a un pays qui a souffert à un moment donné de l'occupation et des gens qui faisaient des affaires à ce moment-là, et le Conseil national de résistance a dit plus jamais ça. Et demain, on risque d'avoir une France qui meurt de soif. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, dans ce contexte-là, si un moyen de vendre l'eau plus cher parce que les gens ont plus soif, tout argent est bon à prendre. Donc on peut s'inquiéter de ça. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est dans quel camp vont basculer nos gouvernants? Est-ce qu'ils vont être plus proches de l'idéal de De Gaulle ou de celui de Pétain?
On se dirige vers une pénurie d'eau généralisée. La France va devoir arbitrer régulièrement et politiquement qui aura l'eau, entre un agriculteur, un industriel, un touriste, etc. Et c'est ce moment-là qu'on choisit pour ouvrir les barrages à la concurrence, c'est-à-dire pour laisser au privé le moyen de monnayer tout ce qu'on aura oublié. Et qui sait quels seront les usages dans 20 ans ou dans 30 ans, par exemple? On ne savait pas dans les années 30 qu'on allait fabriquer des centrales nucléaires dans les années 70 et qu'il faudrait de l'eau pour les refroidir. On ne savait pas dans les années 20 qu'il y aurait le Front populaire en 36 qui nous donnerait les congés payés et que les gens choisiraient de faire du pédalo sur les lacs. Tout ça, on ne savait pas.
Donc la valeur de l'hydraulique sera vraiment décisive demain. C'est une des conditions de réussite de la transition énergétique. Et donc laisser cette ressource qui est essentielle à ce qu'on veut, à cette transition énergétique, aux mains d'acteurs privés avec tous les risques que ça entraîne, ça paraît délirant.
Voilà, c'était un résumé sonore du film Barrage eau sous haute tension de Nicolas Hübelmann, résumé de 15 minutes, mais le film fait 1h20 en tout. Film projeté le 24 mai 2021 à Groyer lors de la foire Biocibelle, organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. Radio Habitiès a enregistré les échanges d'après-film entre le public et Jean-Damien Navarro de la CGT EDF Hydro. En voici la teneur.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez sûrement des questions à poser à Jean-Damien, qui est donc délégué CGT depuis de nombreuses années et qui a suivi la divulgation du film.
À savoir où on en est du coup de ces ventes ou de cette libéralisation des barrages?
Alors, actuellement, on est toujours en conflit avec la Commission européenne. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron disait en tant que ministre de l'économie en 2016 qu'en mars 2016, il annonçait qu'on trouverait un compromis rapide. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2021. Il n'y a toujours pas de compromis avec la Commission européenne. Nous sommes toujours sous le coup de cette mise en demeure que nous a adressée la Commission européenne à l'automne 2015. Donc on est toujours sous le coup possible d'une amende et d'une imposition à ce que EDF lâche de ses concessions. Et il est évoqué dans le film le projet Hercule. Donc le projet Hercule est un projet qui est une explosion complète de l'entreprise et avec une filialisation de l'énergie hydraulique. Et ce que voudrait faire le gouvernement et la direction d'EDF, ça serait d'arriver à une quasi-régie. En disant la quasi-régie est sous un monopole public. Donc il faudrait pour cela déjà renationaliser EDF. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que l'État rachète les actions d'EDF qui ont été émises. Donc on parle d'un budget de l'ordre de 6 à 8 milliards d'euros. Je ne sais pas si aujourd'hui l'État va mettre cet argent sur la table, d'une part. Et d'autre part, faire une filiale, ça serait aller à l'encontre de tout ce qui a été expliqué dans le film. On a construit l'outil de production en fonction, avec une seule stratégie, un seul opérateur qui a pu construire. On n'a pas mis les barrages n'importe où, on n'a pas mis les centrales nucléaires n'importe où, on n'a pas tiré les lignes de tension n'importe comment. Tout a une raison technique et une imbrication technique. Créer une filiale de l'hydraulique, ça serait mettre en concurrence l'hydraulique et le nucléaire, par exemple. Alors qu'on sait parfaitement que les barrages servent pour le refroidissement des centrales nucléaires. Un exemple, la centrale nucléaire de Golfech, aujourd'hui, les barrages qui servent pour son refroidissement sont le barrage des Saint-Peyre dans le Tarn et les barrages de Niourt, d'Izourt et l'Apparan en Ariège. Aujourd'hui, potentiellement, on pourrait perdre à la fin de l'année l'exploitation du barrage des Saint-Peyre, parce qu'on arrive à la fin de la concession d'exploitation du barrage des Saint-Peyre. Donc potentiellement, on pourrait avoir au 1er janvier 2022 un opérateur différent qui exploite la centrale nucléaire et celui qui exploite le bassin qui refroidit la centrale nucléaire. Donc une mise en concurrence directe entre les deux opérateurs. Voilà, donc aujourd'hui, le gouvernement avance sur le projet Hercule. À ce jour, la commission, il y a des tractations. La semaine dernière encore, le ministre Bruno Le Maire était en tractation avec la Commission européenne. Ils tiennent les partenaires sociaux régulièrement informés, mais les orientations qui sont prises ne conviennent absolument pas et ne répondent pas à tout ce qui a été présenté dans le film.
Dans le reportage, il parle de l'Espagne, l'Allemagne qui a été mise en demeure de la même manière que la France ?
Non, alors, l'Allemagne n'a pas eu de mise en demeure, justement. Alors que l'Allemagne... Alors, pourquoi est-ce qu'on tape sur la France ? Mais la France, en fait, a fait une bêtise d'entrée. C'est-à-dire qu'on a eu des discussions avec Mme Vestager, avant qu'elle soit présidente de la Commission européenne, tant qu'elle était encore commissaire à la DGEC, à la concurrence. Mme Vestager nous a dit, mais nous, on est là pour appliquer uniquement les textes européens. La France... comme l'Allemagne, comme l'Autriche, avait le choix. On peut tout à fait déclarer un secteur stratégique dans un pays, et il me semble quand même que l'hydroélectricité est stratégique, c'est la double gestion de l'électricité et de l'eau. De dire que ce secteur est suffisamment stratégique pour le sortir du marché. C'est prévu par par les textes et la Constitution européenne. On aurait pu le faire. Aujourd'hui, seuls les secteurs régaliens sont sortis d'autorité des marchés. On peut tout à fait, un État peut décider. Sauf que la France et tous les gouvernements successifs français ont décidé d'aller vers la mise en concurrence. Loi Sapin. Donc en France, Mme Vestager nous dit, vous avez fait un choix. Nous, on est là pour respecter les choix des États souverains. Vous avez fait le choix de mettre en concurrence. Nous, on est là pour faire appliquer les textes liés à la concurrence. Donc quand on dit c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe. Oui, l'Europe a une idéologie libérale et la mise en concurrence se fait bien sentir, notamment par la GCS, l'Agence Générale du Commerce et des Services, qui a été à l'origine notamment de l'ouverture du capital et des mises en concurrence de la Poste, de France Télécom, du Rail, d'EDF, donc de l'énergie. Donc l'idéologie européenne est très libérale, certes, mais à la fin, l'État français aurait pu protéger le secteur et décider de la non-mise en concurrence du secteur de l'énergie en France. C'est un autre choix qui a été fait.
Est-ce qu'on peut revenir en arrière ?
Si, il suffit, c'est une décision politique. C'est exactement ce qui a été dit dans le film, c'est une décision politique. Aujourd'hui, l'État français ne souhaite pas revenir en arrière. Monsieur Macron est quelqu'un qui a une idéologie libérale qui souhaite aller encore plus en avant que ce que demande l'Europe. Et ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que contrairement à l'Allemagne, qui est une puissance économique bien plus forte que la France aujourd'hui et qui a respecté les critères de maîtrise de ses budgets pendant des années et des années, la France n'a jamais respecté, sur les 15 dernières années, les maîtrises de 3% du déficit. Donc, en échange, la France a dû faire des concessions à l'Europe. Et entre autres, la France s'est engagée, on le sait, c'est des discussions qui n'ont pas été rendues publiques, mais on le sait. Monsieur Pierre Moscovici est commissaire européen et a engagé la procédure de mise en concurrence des concessions hydrauliques en échange du non-respect des 3% des critères européens. Voilà la différence entre un pays qui peut montrer les muscles et un pays qui se tait. Voilà, il me semble pourtant qu'on est quand même une puissance économique forte en France, mais on décide de la mettre ailleurs.
Et en Italie, tu as une idée de ce qui se passe, où il y a beaucoup de barrages aussi?
Alors, l'Italie et l'Espagne ont fait quelque chose. Ils ont décidé d'autorité de prolonger toutes les concessions de 25 ans. Voilà. Donc, quelque part, c'est un peu comme traiter les bouchons en envoyant la population plus loin. Il y a toujours des bouchons, mais ce n'est plus mon problème.
Oui, je voulais demander, en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça, enfin, pour freiner?
C'est toujours pareil, c'est l'interpellation de nos élus. Nous rencontrons depuis 2014-2015 tous les élus de tous bords politiques et nous allons discuter avec eux pour leur expliquer ce qui se passe. Parce que c'est vrai que c'est un marché qui est un secteur qui est très confidentiel et très technique en plus, avec des implications sur tous les secteurs de l'énergie. Donc quand on rencontre des élus, il y a très très peu qui sont au courant. Sur 577 députés, ils ne sont pas les 577 agents des industries électriques et gazière, bien entendu, et c'est heureux. Donc on est obligé de leur expliquer, et beaucoup en fait prennent conscience de ce qu'ils votent à l'Assemblée quand on les rencontre. Ils nous expliquent, on a des conseillers techniques qui donnent la consigne pour l'intégralité du groupe parlementaire pour le vote. Donc notre rôle, c'est d'aller expliquer aux élus, en commençant par les grands élus de proximité, sénateurs, députés, ceux qui votent à l'Assemblée. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des interpellations où on a 107 députés de tous bords politiques, y compris des députés République En Marche, qui ont signé pour la protection du secteur de l'hydroélectricité en France.
Oui, effectivement, ça me semble complètement convaincant comme film. Bon, j'aurais envie de le faire circuler. Est-ce qu'il est d'abord disponible? Et ensuite, donc, ce serait en plusieurs épisodes, parce que c'est vraiment très, 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 très dense. Il y a vraiment plusieurs sujets qui sont à discuter avec tout le monde. Donc, sur le coup, moi, j'ai une question précise, plus technique sur le début, c'est-à-dire sur la particularité de l'énergie hydraulique qui peut être, donc, l'eau peut être réutilisée si on la repompe. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le coefficient d'efficacité entre l'énergie qui est produite quand on fait tourner une turbine pour la produire et par rapport à la même turbine pour la remonter.
Alors, bien sûr, on n'est pas sur un coefficient de 1, c'est dommage. Celui qui l'inventera un jour sera certainement plus riche que Bezos ou Musk. On est sur des chiffres de l'ordre de 2 tiers à 3 quarts. Voilà, c'est-à-dire que quand il nous faut 1 watt pour remonter l'électricité, on n'en a produit que 0,6 ou 0,7 quand on a turbiné, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on utilisait les heures pleines et les heures creuses. On produisait en journée, on mettait l'électricité sur le réseau en journée. Et la nuit, quand on était en heure creuse, on utilisait l'électricité qui était disponible pour remonter l'eau dans le bassin supérieur. Donc oui, ça permettait d'avoir l'électricité disponible au moment où il y avait la pointe. Les pointes, on les connaît. Ce sont les pointes du matin, 6h, 8h. C'est un petit peu le midi. Et la pointe du soir qui est entre 18h et 21h. Donc il fallait d'électricité à ces moments-là. Et c'est vrai que nous, dans l'hydraulique, on ne stocke pas l'électricité, on stocke l'eau. Donc on a à disposition cette eau. Par contre, on n'a pas de barrage suffisamment grand pour avoir de l'eau en permanence 24 heures sur 24. L'hydraulique ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24, à part sur un cours d'eau comme le Tarn, où il est turbiné exactement, tout ce qui passe est turbiné. Mais on n'est jamais ou très rarement à la puissance maximale de l'installation. Donc il y a des steps. La step, société de transfert d'énergie par pompage, c'est faire deux bassins. Ils fonctionnent en autonomie. Donc un bassin supérieur, un bassin inférieur. On turbine en journée et on repompe la nuit. Sur le sud-ouest, il n'y a réellement qu'une seule centrale. C'est la centrale de Montézic dans le nord de l'Aveyron, sur la Truyère, qui fonctionne en bassin de pompage indépendant comme ceci.
C'est complémentaire. Hein. Donc on est aussi dans un département où il y a des projets de retenue et de barrage. Donc par rapport à l'hypothèse qui serait de remonter de l'eau du Tarn avec la production d'énergie renouvelable éolienne ou voltaïque, est-ce qu'on est en train de délirer à savoir qu'il faudrait énormément d'éoliennes et des hectares de voltaïque pour monter, mettons, 100 000 m3 d'eau?
Alors, aujourd'hui, les éoliennes sont de plus en plus grandes. Il y a quelques années, on avait des éoliennes qui faisaient 100, 200, 500 kW. Maintenant, on a des éoliennes qui font 2 MW. Alors, la plus grosse centrale du coin, elle est dans l'Aveyron, c'est la centrale du Truel. Elle fait 480 MW. Donc déjà, il faudrait 240 nouvelles éoliennes pour pouvoir fonctionner. Le gros problème de l'énergie éolienne, c'est qu'on se retrouve maintenant avec des points massifs de production d'éolien, voire de solaire, puisque les centrales solaires commencent à être très très grosses. Et ces électricités-là ne sont pas pilotables, c'est-à-dire qu'elles viennent sur le réseau. Donc il faut que nous... bonne journée. Il faut que nous soyons réactifs pour pouvoir adapter la production d'électricité en fonction des variations de ces électricités-là. Et donc ces énergies pilotables, non pilotables, mais il faut pouvoir se suppléer, c'est-à-dire que le jour où il n'y a pas de soleil, le jour où il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on met en œuvre en face pour pouvoir amener la consommation la consommation d'électricité qu'il faudra quand même fournir.
On pourrait pomper de l'eau quand elle fonctionne et la stocker, c'est ça, c'est la question en fait.
Donc il faudra des grosses consommations. La centrale de Montézic, on parle de 900 MW. Celle qui est en station de pompage dans le nord de l'Aveyron, c'est 900 MW. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire 900 MW avec de l'éolien ou du solaire, il va falloir quand même mettre beaucoup de moyens de production en face.
Oui, merci. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était relatif à la fonte des neiges. On voit encore une fois que le réchauffement climatique a un impact direct sur notre vie future. Ça, c'est une problématique, j'imagine, parce qu'au niveau du stockage, le barrage, c'est une façon de stocker l'eau une fois qu'elle est liquide. Mais en amont, on a un stockage passif par la neige. Donc là, en gros, est-ce que les barrages vont être dimensionnés de manière adéquate pour garantir toute l'année qu'on ait justement une réserve d'eau, quoi?
Alors, ça fait déjà l'objet de plusieurs études, et notamment vous avez des rapports dans l'agence de bassin, disponibles sur le site de l'agence du bassin Adour-Garonne. Non, les barrages ont été conditionnés pour les conditions météorologiques du moment de leur conception, bien entendu. Donc les barrages aujourd'hui, on a un stock d'eau sous forme solide, qui est la neige, effectivement. Il y a un manteau neigeux dans les Pyrénées qui peut être de 4 mètres, 5 mètres, des fois en milieu d'hiver. Et effectivement, les barrages, on turbine beaucoup l'hiver. On creuse le niveau des barrages d'hiver. Pourquoi ? Puisqu'après, derrière, la fusion de la neige vient au printemps re-remplir les barrages pour avoir une côte haute à l'entrée de l'été. C'est le fonctionnement des barrages depuis des dizaines d'années. Certains ont été construits au début du siècle dernier. Nous exploitons sur le sud-ouest de la France des barrages qui ont 120 ans. Donc, ces barrages-là ont été conçus pour ce système de fonctionnement. Or, les études, les prévisions météorologiques dans les prochaines années font état d'une remontée des températures et donc d'une remontée du niveau moyen de la neige, ce qui veut dire qu'il y aura un manteau neigeux bien inférieur à celui que l'on connaît, avec des précipitations qui se feront de manière beaucoup plus condensée, dense, en fait des grosses averses, qui vont amener un volume pluvial, et non plus nival, un volume pluvial instantané, plutôt que d'avoir un volume nival qui soit avec une fonte répartie sur toute la période printanière. Donc les barrages aujourd'hui, non, ne sont pas conçus pour les conditions météorologiques que nous allons rencontrer. Les barrages des Pyrénées, par exemple, ont des petits réservoirs. Le plus gros barrage du sud-ouest, c'est le barrage de Parelou, dans l'Aveyron. Les barrages des Pyrénées ont des petits réservoirs. Donc quand je dis petits réservoirs, Cap de Londe, dans les Hautes-Pyrénées, on est autour de 60 millions de mètres cubes d'eau disponible, de retenue. Sur le Tarn, le barrage des Saint-Peyre, on est à 37 millions de mètres cubes, le barrage de la Raviège, 42 millions de mètres cubes, et le barrage de la Ouzas, 40 millions de mètres cubes. Donc on est sur des... à part Cap de Londe, il n'y a que des petits réservoirs. Donc si l'eau arrive de manière subite sous forme d'averse, on va remplir le réservoir et tout le reste va passer dans les cours d'eau et va aller à l'aval, donc directement dans la Garonne ou dans le bassin méditerranéen. Donc c'est de l'eau qui ne sera une source énergétique et de l'eau potable qui ne sera pas stockée.
Vous êtes toujours sur Radio Albigès et vous écoutez les échanges d'après-projection du film documentaire Barrage eau sous haute tension de Nicolas Hubelmann, projeté le 24 mai 2021 à Groyer lors de la foire Biocibel organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. Jean-Damien Navarro de la CGT EDF Hydro répond aux questions du public.
Oui, juste pour revenir un petit peu en arrière, tout à l'heure quand vous parliez que vous discutez avec les députés et sénateurs, là c'est bien de discuter avec eux, mais par rapport à la situation de 2022 qui se profile entre un duel entre Macron et Marine Le Pen, c'est tous les deux des ultra-libéraux, donc je ne vois pas que ça puisse changer la situation. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement demander à chaque potentiel futur candidat sa position qui soit bien définie et bien écrite, quoi, qu'il sache ce qu'il doit faire si après s'il est élu, qu'on ne se retrouve pas après, dans, comme chaque fois, dans la main.
Tout à fait. Les programmes politiques, de toute façon, on les connaît quand même à l'avance, qu'on rencontre le candidat ou pas. Vous l'avez dit vous-même, les positions libérales de Mme Le Pen ou de M. Macron sont clairement affichées. Le gros problème, c'est qu'on est effectivement sur une forte... on est sur la transition écologique, on est sur une forte prise de conscience populaire par rapport à tout ce qui est écologique. Et pourtant, la France, on se fait sanctionner au niveau mondial parce qu'on n'avance pas assez dans l'écologie. Donc malgré ces sanctions, malgré les partis écologiques qui le remettent régulièrement sur le tapis, M. Macron n'inscrit pas dans sa politique une politique, une composante gouvernementale sur l'environnementale suffisamment forte. Il a même tortillé du tchoul pour ne pas le mettre dans la Constitution il y a 15 jours, en prétextant que les sénateurs républicains avaient fait obstruction. C'est bien d'écouter l'opposition. C'est chouette, hein, franchement, il est vachement démocratique, celui-là. Bon, s'il pouvait écouter toutes les oppositions, ça serait pas mal. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai malheureusement peur de connaître la réponse à votre interrogation.
J'ai une question au niveau... là, je suis là, derrière toi. Colette, c'est moi. Je suis la voix. Au niveau syndical, on a vu des représentants de CGT, il y a Sud Énergie aussi. Est-ce que vous travaillez ensemble dans les syndicats en plus de films comme ça ou de rencontres, comment vous vulgarisez ce savoir que vous avez de l'intérieur de l'entreprise?
Oui, justement, c'est vraiment un point qui fait consensus au niveau des syndicats dans les IEG, que ce soit sur les concessions hydrauliques ou sur le projet Hercule depuis 6 mois maintenant. Justement, l'employeur se casse les dents là-dessus, puisque aucun des syndicats majoritaires représentatifs n'adhère à la politique de l'employeur. Donc, comment on fait la réalisation de ce film? Et on fait aussi des débats publics. J'ai animé une vingtaine de débats publics mandatés par le CSE de mon établissement, donc Hydraulique Sud-Ouest, pour aller justement rencontrer la population, rencontrer les élus. Et c'est bien au titre de représentant du personnel que je suis là. Aujourd'hui, moi, je suis mandaté par les élus du personnel, donc par le personnel aujourd'hui pour venir. Voilà, ce n'est pas une démarche seule de la CGT dans son coin, c'est vraiment représentant des personnels de manière unanime.
Je reviens sur une question technique. On parle là des barrages qui ont aussi un coût écologique, en tout cas ça change le paysage, il y a plein de questions qui peuvent se poser aussi, qui se sont posées au moment de leur construction. Il y a les barrages au fil de l'eau, je crois qu'on appelle ça. Quelle est la part des barrages au fil de l'eau? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est?
Oui, en fait, les barrages, il y a plusieurs... un barrage, de toute façon, il n'y a rien de standardisé. C'est vraiment très prototypal, tant le barrage à la retenue que le moyen de production
qui est à Laval. Tout est de composition unique, puisque les vallées ne se ressemblent pas. La hauteur de chute est différente. L'ingénieur le disait dans le film, plus la hauteur de chute est élevée, plus le rendement du mètre cube d'eau qui tombe est élevé. Donc on a plusieurs types de barrages. La première des choses, c'est la dénivellation, donc quelle est la hauteur de chute disponible. Vous avez des barrages sur le Tarn, le barrage de Rivière par exemple, c'est 15 mètres de hauteur de chute entre le plan d'eau et le fond du canyon. On a des barrages qui font, je parlais de l'usine du Truel tout à l'heure, dans l'Aveyron, 400 mètres de chute. Donc le plan d'eau de Villefranche de Panat est turbiné et renvoyé dans le cours d'eau, dans le Tarn, au niveau du Truel. Tu parlais de est-ce qu'on peut aujourd'hui construire des nouveaux aménagements? Moi, je pense que la première des choses, ce serait de voir si on ne peut pas construire sur de l'ancien. Et aujourd'hui, l'employeur EDF a un projet en cours d'instruction de faire une station de pompage entre la retenue du Truel et la retenue de Villefranche de Panat, c'est-à-dire remettre une pompe qui puisse faire un circuit fermé entre le bassin du Tarn à Laval et la retenue Villefranche de Panat, déjà construite à l'amont, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de retenue supplémentaire créée. Je sais que dans le Tarn, hein, j'habite à côté de Gaillac, je sais que ce qui est passé il y a 5 ans pour Sivens, il faut vraiment faire très très attention aux oppositions que l'on peut rencontrer. Donc on peut développer aujourd'hui l'existant. Donc sur la basse chute, oui, 15 mètres ici. La moyenne chute, c'est au-dessus de 150 mètres jusqu'à 400 et 600 mètres. Et après, au-delà, on parle de haute chute. De haute chute, c'est ce qu'on rencontre en montagne, avec des réservoirs qui sont en altitude, très très haute, et des usines qui sont dans le fond des vallées. Et en France, nous avons notamment la plus haute chute d'Europe, qui est dans la vallée du Lys, juste au sud de Luchon, l'usine du Portillon, où la hauteur de chute est de 1400 mètres. Ce qui veut dire donc 140 bars en pied de conduite. L'acier de la conduite fait 7 cm d'épaisseur en fond de conduite, puisqu'il faut supporter ces 140 bars plus tout le poids de la colonne d'eau qui pèse sur le fond de la conduite. Donc on a de l'ingénierie qui est capable de faire des choses. Je bade très tranquillement les ingénieurs génie civilistes qui ont conçu ce genre d'installation qui date donc de 1930 et qui fonctionne encore toujours aujourd'hui. Avec de la surveillance, certes, mais qui fonctionne très très bien.
Oui, juste pour revenir au barrage de Rivière, comment vous appelez le barrage qui a Albi, là, de, comment il s'appelle le nom du barrage là? Enfin, la retenue d'eau, là, qui est l'usine hydraulique. Alors, du chapitre, là, oui. L'usine, voilà. Du chapitre, oui. Oui. Parce que, d'après ce qu'on dit, au niveau des rivières, la biométrie va diminuer d'ici des décennies. Donc, ils auront moins de rentabilité. Donc, justement, comme vous me dites, est-ce que ce n'est pas mieux d'entretenir déjà les barrages existants que de construire de nouvelles retenues d'eau sur les rivières qui, forcément, ne seront pas rentables?
Tout à fait. C'est ce qui avait été posé juste au préalable. On va vers des apports pluviométriques massifs. Donc, les barrages, une fois qu'ils sont pleins, ils déversent. On ne peut pas stocker l'eau une fois que le barrage est plein. Donc, un barrage qui est construit sur une digue, comme le chapitre, puisque c'est plus une digue qu'un barrage, la capacité de retenue est très très faible. Tout ce qui en rentre, ça ressort immédiatement. Donc si on a 1 million de mètres cubes d'eau qui arrive, si on l'a sur une semaine et demie, on va pouvoir turbiner pendant une semaine et demie. Si on l'a sur une demi-journée, on va turbiner une journée, après derrière c'est fini. Donc il va falloir effectivement se poser une question sur est-ce que nos barrages sont adaptés. Pour l'instant, oui. Dans l'avenir, certainement pas. Le bassin Adour-et-Garonne a déjà émis une étude où ils estiment qu'avec le développement démographique du sud-ouest autour des deux agglos principales que sont Toulouse et Bordeaux, on estime qu'en 2050, il devrait y avoir 1 million d'habitants de plus dans le sud-ouest,
entre ces deux agglos plus le Sud-Ouest qui est quand même largement attractif, il faudrait construire 1 milliard de mètres cubes de retenue supplémentaire sous toutes ses formes. La capacité des retenues d'EDF aujourd'hui dans le Sud-Ouest, c'est 2 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on construise l'équivalent de la moitié de nos capacités actuelles. Et je rappelle ce qui s'est passé à Sivens. Ça a fini par la mort d'un gamin de 21 ans. Donc c'est même pas des choix d'industriels. C'est quelque chose qui est vraiment dans le domaine public, qui devrait être posé comme question du domaine public.
Oui, donc le fait que les concessions vont retourner vont aller dans le privé, ça va vraiment pas arranger les choses.
Non, les concessions dans le privé, déjà, moi, je trouve que c'est une spoliation réelle du citoyen français, puisque on parle d'aménagements qui sont très, très volumineux en génie civil, donc très coûteux. On estime qu'aujourd'hui, on est sur du neuf, en moyenne, à 2 millions d'euros par mégawatt installé. On parle d'installations qui font pour certaines plusieurs centaines de mégawatts. Donc, on a des projets de suréquipement à EDF qui sont de l'ordre du milliard d'euros. Aujourd'hui, un investisseur dans n'importe quel domaine, s'il n'est pas payé dans les 5 à 7 ans, il n'y va jamais. Mais 1 milliard d'euros, on ne les rentabilise jamais dans les 5 à 7 ans. Donc, heureusement que des fonds publics sont venus après la guerre pour créer ce parc que nous avons encore aujourd'hui. Et on a dit, puisque ce sont des sommes très conséquentes qui sont portées sur la table, l'amortissement de ces sommes ne se fera pas sur les formes financières habituelles, on va le faire sur la durée de la concession. 40, 50 ou 60 ans. C'était à l'époque le législateur qui avait décidé de la durée de la concession. Donc, ce qui veut dire que quand on remet un barrage en concession à la fin de la concession, il est amorti. Il est amorti. Donc c'est au moment où il est amorti qui doit être le plus rentable et qui doit bénéficier en retour le plus à celui qui a fait l'investissement. Et celui qui a fait l'investissement, c'est quoi? C'est d'abord des fonds publics qui petit à petit ont été remplacés par les factures des usagers au fur et à mesure que le parc s'est développé. Donc c'est quelque chose qui devrait revenir aujourd'hui aux citoyens français. Et c'est au moment où c'est le plus rentable qu'on va chercher des opérateurs qui n'ont pas investi un centime dedans pour leur faire un cadeau. Le parallèle avec les autoroutes, il est parfait. C'est la même chose. On donne... Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'a fait la Vinci qui allait récupérer les autoroutes? Ben, il a enlevé tous les caissiers. Aujourd'hui, vous allez prendre le péage de l'Union, il y a un caissier. Et il est pas dans les caisses, il est à côté. Hein. Et en même temps, comme ça, il peut répondre s'il y a un problème au péage de Pamiers, s'il y a un problème au péage d'Agen, s'il y a un problème au péage de Montauban, il appuie à distance, il ouvre la barrière. Voilà, ils ont supprimé 1200 emplois. C'est ça qui a été fait. Et maintenant, ils travaillent à un truc. Quand ils envoient les déneigeuses, quand il y a des coups de neige, mais ils sont en train de développer des radios pour éviter d'en envoyer deux, pour en envoyer qu'un seul. Voilà. Avec un homme mort, hein, vous savez, le téléphone qui détecte si on fait la sieste ou si on est debout.
J'ai une dernière question, peut-être, parce qu'après on va... Oui. Si, c'était sur les statuts, le statut en fait d'EDF.
Oui.
Est-ce que pour vous, est-ce qu'il faudrait revenir à son statut de 46, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi des choses à voir sur une forme coopérative, une SIC, société coopérative d'intérêt collectif, où des gens, des citoyens pourraient aussi être sociétaires d'EDF directement, et pas que EDF passe par l'État, etc., parce que l'État aussi, on sait qu'il est changeant.
Oui.
Donc est-ce qu'il y a des choses que pour vous, en tant que syndiqué ou en tout cas salarié, qui pourraient être adaptées aux nouvelles formes coopératives aujourd'hui?
Alors, pour nous, on pense que le meilleur modèle, on réinvente pas le passé, hein. On regarde ce qui a fonctionné et on se dit qu'on pourrait le remettre en service. Quand on est dans les années 80-90, on observe les résultats et on observe que la France a un des kilowattheures les moins chers d'Europe et une sûreté du réseau les plus élevées en Europe. C'est-à-dire qu'on a en moyenne moins de 20 minutes de coupure par an et par habitant. Ce qui veut dire que c'est quasiment rien, quoi. C'est quasiment rien. Ce sont les avaries, ce sont un peu de maintenance. Donc on a un modèle économique et social qui fonctionne et qui bénéficie à tout le monde. Le prix d'électricité en Allemagne est deux fois le prix d'électricité en France. Donc ce modèle-là, il a fonctionné pendant 60 ans. Il n'y a aucune raison qui ne refonctionne pas maintenant. Depuis l'ouverture du marché en 2005, les prix d'électricité sont montés de 30%, ceux du gaz de 60%. Non, la concurrence, contrairement à ce qu'a dit le commissaire européen, la concurrence ne fait pas baisser les prix. Et certainement pas dans un secteur où les prix étaient déjà suffisamment faibles. Un des anciens PDG d'EDF, Marcel Boiteux, avait même utilisé une expression. Il avait dit la concurrence ne fait pas baisser les prix. Pour EDF, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire monter les prix pour supporter la concurrence. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a même un dispositif qui est absolument catastrophique, qui a été mis en place par le gouvernement Sarkozy en 2010 dans le cadre de la loi sur l'électricité. C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, où on oblige EDF à mettre 25% de sa production nucléaire à disposition de ses concurrents à prix coûtant. Alors, imaginez, demain, vous voulez vendre des avions, vous allez voir Airbus et vous leur dites « Donne-moi 25% de tes Airbus à prix coûtant. » Vous allez prendre un sacré pied au tchoul. Hein. Bon, eh bien, pour EDF, c'est comme ça. Tous nos concurrents, aujourd'hui, peuvent bénéficier des prix, d'autant plus que le prix coûtant réel du nucléaire, une étude de la Cour des comptes l'a estimé à 55 € du mégawattheure, et le prix pour lequel on est obligé de vendre l'électricité à nos concurrents, c'est 42. Chose encore plus rigolote, c'est un prix plafond, c'est-à-dire que s'ils trouvent moins cher ailleurs, ils peuvent ne pas venir. Ils vont chercher l'électricité, s'ils trouvent moins cher ailleurs, ils la prennent, et si l'électricité qu'ils trouvent moins cher monte, puisqu'il y a des variations régulières, si ça repasse au-dessus de 42, ils viennent se mettre gentiment à l'abri de l'arénage. Quand le monsieur de la Commission européenne nous parle de la concurrence libre et non faussée, je cherche encore les définitions de libre et non faussée aujourd'hui. Voilà. Donc notre position, c'est un retour à un EDF entreprise publique. Voilà, hors concurrence, puisque c'est le modèle qui a fait le plus ses preuves pour les usagers.
Toute la problématique du service public qui en ce moment.
Tout à fait.
On prend plein les.
Merci à vous.
Merci, Jean-Luc.
C'était les échanges d'après-projection du film documentaire « Barrage haut sous haute tension » de Nicolas Hubelmann, film projeté le 24 mai 2021 à Groyer lors de la foire Biocibel organisée par l'association Nature et Progrès Tarn, foire à l'agriculture biologique et aux alternatives. Retrouvez le film de Nicolas Hubelmann « Barrage haut sous haute tension » sur internet gratuitement et retrouvez l'association Régie Sud qui a permis sa production sur www.regisud1901.org. Merci à l'équipe de Nature et Progrès Tarn ainsi qu'à Jean-Damien Navarro de la CGT EDF Hydro. Retrouvez plus d'infos sur la privatisation des barrages sur le site cgt-edf-recherche.fr ou encore sur www.sudenergietoutattaché.org. Allez, à 17.